Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Guérir et grandir ensemble de Daphna Lender est un ouvrage de parentalité thérapeutique et de clinique familiale consacré à la réparation de la relation entre parents et enfants. Présenté en français comme une approche pour restaurer la confiance et harmonie familiale, le livre expose les principes de la thérapie familiale intégrative basée sur attachement, souvent associée au sigle IAFT. Son propos central consiste à déplacer le regard porté sur les comportements difficiles des enfants. Plutôt que de les traiter seulement comme des problèmes de discipline, Daphna Lender les relie à la sécurité émotionnelle, aux besoins de connexion et aux blessures relationnelles. Le livre vise donc à aider parents, éducateurs et thérapeutes à répondre avec présence, chaleur et co-régulation, sans réduire la relation à la punition, au contrôle ou au cri. Sa valeur tient à une articulation accessible entre attachement, neurosciences relationnelles et outils concrets pour réparer le lien familial. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les comportements difficiles comme signaux de détresse relationnelle. Un axe majeur du livre consiste à interpréter les crises, oppositions, retraits ou explosions émotionnelles comme des signaux plutôt que comme de simples fautes à corriger. Cette perspective ne nie pas la nécessité de limites, mais elle change le point de départ. Un comportement perturbateur devient une information sur un état interne, souvent lié à la peur, à la honte, à une surcharge émotionnelle ou à une perte de sécurité dans le lien avec un adulte. Le raisonnement de Daphna Lender s'inscrit dans une logique issue d'attachement. Un enfant cherche d'abord à préserver une connexion fiable avec ses figures importantes, même lorsque ses moyens sont maladroits ou dérangeants. La conséquence pratique est importante. Si le parent répond uniquement par contrôle, menace ou punition, il risque de renforcer le sentiment de rupture qui alimente déjà le comportement. Si le parent cherche plutôt à comprendre le besoin relationnel sous-jacent, il peut intervenir sans abandonner son rôle adulte. Le livre invite ainsi à passer de la question « comment faire cesser cela » à la question que tente de communiquer cet enfant. Deuxièmement, la co-régulation comme mécanisme concret de sécurité émotionnelle, la co-régulation occupe une place centrale dans la méthode présentée. Elle désigne la capacité de l'adulte à offrir un système nerveux plus stable à un enfant qui ne parvient pas encore à retrouver seul son équilibre émotionnel. Le livre insiste sur le fait que les enfants ne se calment pas durablement par injonction, surtout lorsque leur niveau de stress dépasse leur capacité de contrôle. Ils se régulent mieux au contact de signaux relationnels de sécurité tons de voix posés, regard non menaçant, proximité adaptée, rythme ralenti, disponibilité affective. Cette idée donne une base pratique au principe de l'attachement. La sécurité émotionnelle ne reste pas une notion abstraite. Elle se manifeste dans la manière dont un parent entre dans la crise, supporte la détresse et évite de devenir lui-même une source de peur supplémentaire. Le parent demeure responsable du cadre, mais il commence par aider le corps et les émotions d'enfant à redescendre. Cette priorité donnée à la régulation explique pourquoi le livre critique les réponses qui cherchent une obéissance immédiate sans tenir compte de l'état neuro-émotionnel du jeune. Troisièmement, la réparation du lien plutôt que la recherche de parents parfaits. Le livre ne présente pas la relation familiale comme un espace où le parent devrait toujours répondre de manière idéale. Il met plutôt en avant la réparation, notion essentielle dans toute approche fondée sur attachement. Les ruptures relationnelles sont inévitables, fatigue, incompréhension, colère, réactions trop rapides ou erreurs éducatives apparaissent dans toutes les familles. La question décisive devient alors la capacité à revenir vers l'enfant, reconnaître la rupture et restaurer une base de confiance. Cette insistance a un intérêt clinique et pratique. Elle réduit la culpabilité stérile des parents tout en évitant de banaliser les blessures. Réparer signifie montrer que le lien résiste au conflit, que l'adulte peut assumer sa part et que l'enfant ne reste pas seul avec la peur d'avoir perdu la relation. Dans cette perspective, harmonie familiale ne veut pas dire absence de tension, mais présence de mécanismes fiables de retour au contact. Le livre se distingue ainsi de nombreux guides centrés sur la bonne technique éducative, car il place la qualité de la reprise relationnelle au centre du changement durable. Quatrièmement, une approche intégrative entre attachement, neurosciences et pratiques cliniques, guérir et grandir ensemble se situe à la frontière entre livres pour parents, ressources pour éducateurs et guides cliniques. Son cadre IAFT combine plusieurs niveaux de lecture, le développement d'enfants, la sécurité du lien, la régulation du système nerveux et les dynamiques familiales. Cette intégration est importante, car les difficultés de parents-enfants ne relèvent pas seulement de techniques de communication. Elles mobilisent la mémoire relationnelle, les réactions automatiques de défense, la capacité de l'adulte à rester présent et les attentes implicites de l'enfant envers ceux qui prennent soin de lui. Le livre rend ces principes utilisables sans les réduire à des formules simplistes. Il ne promet pas une méthode mécanique applicable à toute situation, mais propose une orientation comprendre ce qui se joue dans la relation avant de choisir une intervention. Pour un thérapeute, Cela soutient une pratique qui observe simultanément le comportement visible et la sécurité affective du système familial. Pour un parent, cela offre un langage plus précis pour comprendre pourquoi certaines réponses disciplinaires échouent même lorsqu'elles semblent rationnelles. En dernier lieu, les implications pour parents, éducateurs et professionnels de aide, le public visé dépasse le cercle des thérapeutes familiaux. Le livre peut être lu par des parents confrontés à des conflits répétitifs, des éducateurs cherchant des réponses moins coercitives ou des professionnels de aide souhaitant enrichir leur compréhension du lien parent-enfant. Son apport pratique réside dans le déplacement de posture. Il ne demande pas seulement de changer des phrases ou des stratégies, mais de modifier la manière de percevoir enfant pendant la difficulté. Le jeune ne devient pas un adversaire à vaincre, mais une personne dont le comportement révèle une désorganisation et un besoin de présence structurante. Cette idée a des conséquences dans les écoles. Les institutions et les familles, elle encourage des interventions qui combinent limites claires et relations non humiliantes. Le livre invite aussi adultes à observer ses propres réactions, car la capacité à co-réguler dépend de son état interne. Une réponse relationnelle exige donc du discernement, pas une permissivité automatique. La force de cette approche tient à son équilibre entre empathie, responsabilité adulte et attention aux effets concrets des interactions quotidiennes. En conclusion, Du rire et grandir ensemble convient particulièrement aux parents qui se sentent enfermés dans des cycles de cris, opposition et découragement, ainsi qu'aux thérapeutes, éducateurs et professionnels de la relation qui veulent approfondir une approche centrée sur attachement. Le bénéfice pratique principal est de fournir un cadre pour comprendre ce qui précède le comportement visible insécurité, surcharge émotionnelle, rupture de contact ou besoin de co-régulation. Le bénéfice intellectuel est de relier des notions souvent séparées, notamment neurosciences relationnelles, clinique familiale et parentalité au quotidien. Le livre se distingue des guides éducatifs plus classiques, par son refus de traiter la discipline comme un simple problème de technique. Il ne se contente pas de proposer des outils pour obtenir coopération. Il questionne la qualité du lien qui rend cette coopération possible. Comparé à des ouvrages de parentalité positive, parfois très généraux, il apporte une assise thérapeutique plus précise grâce à IAFT et à la place centrale donnée, à la réparation. Comparé à des manuels cliniques plus spécialisés, il reste accessible et orienté vers utilisation concrète. Sa singularité réside donc dans cette combinaison, une lecture profondément relationnelle des difficultés d'enfant, une attention au corps et à la régulation, et une orientation vers la restauration active de la confiance familiale. Si vous souhaitez soutenir Daphna Lender, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.